Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, un dimanche des paysans. Derrière son ordinateur, Paul rêve de grandes étendues et de chalets enneigés. Alors qu'à 6000 km à l'ouest, quelques expatriés à la langue bien pendue apprivoisent la belle province. Ils nous parlent relations, travail et poutine au bœuf bourguignon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e numéro de Micro-cravate sur Choc, qui vous sera présenté par Anna Massé et Gauthier Piatek, toujours à la technique.
Salut Anna, bonjour à tous.
Aujourd'hui, second volet de notre thématique migration, culture et autres complications. Mais cette fois-ci, direction cette contrée hostile qu'est le Québec.
Qui c'est ce tocard ?
C'est Nox.
Cravate de Pecno, aucune classe.
Micro-cravate.
On va écouter le témoignage d'un Français qui essaye désespérément d'obtenir son PVT. Chaque année, seulement 6750 Français parviennent à obtenir le précieux sésame pour le Canada. Pour 2014, les inscriptions se sont faites au travers de trois vagues d'admission, permettant donc de tenter sa chance trois fois. Quand permis vacances travail rime avec soucis, patience et site web bancal, Paul Venet nous dit tout.
Oh Canada, cela fait maintenant des mois que je caresse le doux rêve d'un jour atteindre tes vastes étendues, tes promesses de sirop d'érable et ta poutine légendaire dont on parle avec du soleil dans les yeux et de la bave au coin de la bouche. Tel un André Manoukian pétri par les clichés les plus abscons, j'ai longtemps entendu parler de toi, de ta douceur de vivre, de la gentillesse de tes habitants qui font la queue pour prendre le bus et qui disent merci au serveur. Soudain, je fus pris de la folle envie de venir te rencontrer, de me rendre en cette terre promise d'où les visiteurs reviennent avec l'envie de ne jamais l'avoir quittée. Le déclencheur, peut-être le ciel gris de Bruxelles, l'envie de ne pas retourner vivre en France, les louanges que mes amis Anne et Gauthier m'ont chantées sur ta belle personne. Ou peut-être fût-ce ce matin d'octobre où, arrivant aux locaux de Nostalgie Belgique, je vis Garou, le chanteur, et qu'il me tint d'un bras ferme la porte d'entrée en me disant « Après vous », avec ses yeux bleus comme l'azur. Oui, j'étais décidé, moi aussi, comme tant d'autres maudits français, j'allais venir exporter mes sales manières chez toi et grossir les rangs de ces malappris qui te volent ton plateau Mont-Royal et qui trimballent leur accent nasillard au gré de leur sempiternelle mauvaise humeur. En septembre 2013, j'ai quitté la Belgique. Mon travail, mes colocataires désespérés et mes amis qui pleuraient à chaudes larmes, pestant contre toi, cette lointaine amante qui allait les dérober de leur bon vieux polo, polochon, popol ou encore popoli, c'est selon. Mais ma décision était prise. En pactant mes affaires, je décidais alors de retourner vivre chez mes parents, dans ma Picardie natale, afin d'économiser suffisamment pour venir m'installer chez toi. Ça passerait vite, me dis-je. J'étais alors loin de m'imaginer quel périple j'allais entreprendre. Optant pour un permis vacances-travail, je commençais les démarches pour obtenir ce sésame tant attendu et tant désiré. Je fus alors confronté à un vaste gloubi-boulga administratif qui ferait passer mon inscription à la commune de Scarbec et le remplissage de ma fiche d'impôt pour un jeu d'enfant de 5 ans que son cousin lui a déjà construit. En d'autres termes, c'était la merde. Outre une foultitude de documents à accumuler pour enfin se rendre compte que la moitié n'était pas nécessaire, pour la première fois depuis son existence, les demandes de visa allaient se faire sur une plateforme internet, un site web 2.0 nommé Compass qui allait devenir mon pire ennemi. Les demandes d'inscription devaient ouvrir en novembre. Chaque jour, fébrilement, je martelais le bouton réactualisé de mon navigateur web pour espérer pouvoir présenter ma demande. Après des jours d'angoisse, un tweet de l'ambassade m'affirma que le site n'ouvrirait qu'en décembre. Frustration ! Le mois de décembre approchant, le même rituel. Réactualisé encore et encore. Puis, ce second tweet vint. Le site internet n'ouvrira qu'en 2014. Rage ! Infamie ! Désolation ! Tandis que je prenais mon mal en patience ainsi qu'un travail de caissier slash vendeur de pop-corn dans un cinéma de ma ville, je finis par apprendre la nouvelle. Les demandes de PVT allaient ouvrir, le 1er février. Une première tranche de 2250 places, disponible pour quelques élus. Joie, stress aussi. Le jour J, je me connectais sur Compass, le site qui me permettrait d'atteindre mon rêve. La déception fut alors à la hauteur de mon excitation. Durant 2h30, je fus confronté à une page qui ne voulait pas marcher, qui refusait de s'ouvrir et qui finit au bout de ma xème tentative par m'annoncer « Le quota de la première tranche a été atteint, dommage mon grand ». 50 000 personnes étaient sur les rangs, je fis partie des perdants. « Tant pis, me dis-je, il y aura encore une deuxième, voire une troisième tranche. Optimisme, ouvre-moi tes bras !» Deux semaines plus tard, ouverture de la deuxième tranche. Concentré tel un sprinter sur la ligne de départ, je me préparais à participer à cette battle royale du web où la meilleure connexion et le clic de souris sont les armes. Au bout d'un quart d'heure, là aussi, je fus éjecté tel le petit blond géniard dans Hunger Games qui passe la moitié du film dans les vapes. Se posa alors la question. Et si j'échouais à la troisième tranche? Et si mes rêves de Robert Charlebois partaient en fumée? Qu'allais-je devenir? Qu'allais-je faire? Allais-je rester en France et me trouver un travail à Paris? Allais-je renoncer à toi et m'envoler vers l'Australie, ce paradis perdu rempli de kangourous, de surfeurs blonds et de grottes rupestres dont tout le monde se fiche? 1er mars, 15h55. seul devant mon ordinateur. Mon cœur bat à la chamade et je me détends en tapotant nerveusement sur mon bureau. 16h. La troisième vague d'inscriptions s'ouvre. La page s'affiche. Je coche les cases. Patiente. Attends le chargement. Coche d'autres cases. Patiente à nouveau. Et puis... Pouf. J'ai réussi à m'inscrire. J'effectue une danse de la joie sur le tube Be Faithful de Fatman Scoop et j'enchaîne sur une Carlton Dance. Je reçois l'accusé de réception puis paye les frais d'inscription dont le montant s'élève à 98$. Et puis, plus rien. Cela fait maintenant 23 jours que je n'ai plus de nouvelles. Moi qui croyais en avoir fini avec le stress, les cauchemars qui me tenaient éveillé la nuit, me voilà plongé dans une attente infernale. Et si finalement, Canada, tu ne voulais pas de moi? Et si en voyant mon passeport, tu avais décidé que je ne ferais pas l'affaire, me dégageant d'un revers de la manche tel un infâme malandrin sur lequel on serait tombé sur Chatroulette? Oui, je sais, sur ma photo, j'ai une sale coupe de cheveux, les yeux d'un lapin qui aurait fumé du crack et des boutons sur la gueule. Mais j'étais jeune, j'avais passé une sale journée, j'étais passé sous les ciseaux d'un coiffeur hasardeux. Ne suis-je donc pas digne de toi? Pourtant, je suis gentil, je te jure. Je perdrai mes mauvaises habitudes de français. Je me plierai en quatre, accepterai toutes tes conditions et je t'apporterai caramel, bonbons et chocolat. Je serai poli et pas chiant du tout. Si tu entends ce cri du cœur, je t'en prie, réponds-moi, tu ne le regretteras pas. Avec toute mon affection, Paul.
Sachez que tout est bien qui finit bien pour Paul, il a finalement reçu la confirmation de l'ambassade du Canada et prépare sa valise pour Montréal.
Que nos esprits s'épanouissent.
Super ça, mais une fois au Canada, comment ça se passe? Car on le sait bien nous, grâce à nos médias européens. Au Québec, tout le monde parle comme Céline Dion, se nourrit de sirop et vit dans une cabane. L'hiver, on reste sous terre et on se déplace en traîneau à chien. Quant aux étrangers, ils sont bien sûr accueillis à bras ouverts par les locaux et les recruteurs. Pour en être sûr, nous sommes partis à la rencontre d'expatriés français, belges, chinois ou encore mauriciens qui ont décidé de vivre à Montréal. Certains pour quelques mois, d'autres pour s'y installer définitivement. Entre fausses vérités et vrais clichés, ils nous livrent leurs premières impressions du Québec, leurs anecdotes et racontent leur intégration.
Jet Whisper, Jet Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir.
Le Canada, c'est le pays où mon père a fait une grande partie de, une partie de sa vie, puis j'avais envie de découvrir ce que c'était. C'est une façon un peu de me rapprocher de ma famille en partant loin, parce que c'est agréable de voyager.
Valentin, français belgophile, aujourd'hui programmeur à Montréal.
J'étais parti en Angleterre et en Belgique pendant quelques mois ou quelques années à chaque fois. Et j'avais bien apprécié, donc je me suis dit qu'au Canada, ça pourrait être sympathique aussi.
Au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les beaux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. La Sophie qui venait de partir sur Québec Air, Transport, Northern, Eastern, Western.
Seb et Fanette, couple de Français globetrotteurs.
Les premières impressions de Montréal, c'était vraiment bizarre et très accueillant, très vert, beaucoup de parcs en fait, c'est surtout ça qui m'a plu le plus.
Ouais.
Parce que nous, en fait, on a atterri à Toronto et c'était très bétonné. Et en fait, on est arrivé à Montréal de suite avec le bus. C'était toujours, c'était des parcs et du vert, quoi. Ça m'a donné envie de rester. C'est
et
ce qu'on a fait.
C'était multiculturel aussi.
Ouais.
Ouais.
C'était très bien.
Puis l'architecture, moi, j'aimais bien. Ça faisait un mélange d'Amérique du Nord puis d'Europe aussi, quoi.
Je m'attendais à beaucoup plus froid, par contre. Puis finalement, on s'en sort, on survit.
Est-ce que tu imaginais que tu allais te transformer en glaçon en hiver?
Non, je pensais juste perdre un orteil ou un doigt, mais non, finalement, c'est pas arrivé. Ça s'est bien passé, quoi.
Mais on s'attendait à pire.
Ouais.
Moi, j'aime bien, au contraire, ouais. Quand il fait froid.
C'est clair. Ouais. Pour moi, le plus dur ici, c'est l'été. Trop chaud, trop humide. Ah, ça, c'est ça qui me tue le plus.
C'est une chose à laquelle tu t'attendais, en fait, des étés chauds et humides à Montréal ?
Non, chaud et autant humide, ça me faisait un peu penser au Japon, en fait. Août de septembre, c'est pareil.
Ouais, c'est pas une ville stressante.
Donc... Non, c'est vrai. Pour une grande une ville, ouais, pour une grosse ville, ça va. En fait. Ouais. Ah. C'est pas très stressant. C'est
pas non plus hyper grand. C'est quand même faire le tour.
Moi, je trouve pas ça non plus excessivement cher de vivre à Montréal.
Ouais,
quoi.
Ça va.
On peut s'en tirer, ouais, pour les loyers. Je veux dire, par rapport à une.
Aux villes en France, là.
Ouais,
c'est quand même moins cher.
Cuire, c'est facile. 3, ajoute la sauce et le fromage squish squish. Dans ton estomac, des sensations magnifiques.
Comment c'était ta première
Des choses, ça couinait dans la bouche. Puis les frites humides, c'est quand même un peu spécial. Je préfère quand ça croustille. Tant que cuisinier, quand même, je veux dire. Bonne frite croustillante, là, c'est la frite et la sauce brune par-dessus et le fromage squish squish, là, qu'ils appellent. C'est la première fois qu'on m'a dit pourquoi squish squish. C'est parce que ça couine sous la dent, ça fait un squish squish sous la dent, c'est pour ça en fait. Bon, en général, quand un fromage ça fait ça, c'est pas que c'est bon. Mais bon, faut pas que le fromage goûte trop quoi.
La première fois que j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est clair qu'après, je vais en manger peut-être une ou deux par an quoi. Ou si je suis vraiment sous à 3h du mat, c'est la poutine là, mais.
Ouais. Moi, par contre, je fais des super bonnes poutines au restaurant. Je fais des poutines genre poulet façon coco vin. Et la poutine... Attends, poutine bœuf bourguignon. Ça, ça pète, quoi. Ouais, je fais ça avec du cheddar, de l'huile des grues. Puis, tu sais, tu fais comme un bœuf bourguignon normal maison, tu sais, avec les petits oignons, tout ce qu'il faut. Puis, tu fais quand même avec une bonne sauce vin rouge et tout. Et par-dessus, les frites et le cheddar, je te jure. Ouais, ça s'envoie, quoi. Mais en fait, ça c'est mon patron un jour, il me voyait manger comme ça le bœuf bourguignon, je veux pas le manger avec des pâtes, il me fait « Oh, le bœuf bourguignon, là, comme ça, sur les frites, oh, trop bonne idée, on va mettre ça au menu. » Super, tu parles d'une connerie, là, du coup, j'en vends plein, quoi, à chaque fois que je le fais. Dès que je vois qu'il arrive, il faut que je me fasse genre 6 litres de bœuf bourguignon, quoi. Énorme.
Serre-moi une poutine chaude.
Ici, par contre, ouais, les gens très accueillants, quoi, un truc que je m'attendais pas vraiment, c'est genre, t'es perdu dans la rue, ça m'est arrivé une fois ou deux, tu demandes à quelqu'un, le gars, même s'il connaît pas, il va arrêter un autre gars qui va lui poser la question pour pouvoir vraiment t'aider, quoi. Alors, t'es là, tu demandes à une personne, puis non, mais la déranger, non, mais arrêtez, là. Et puis, il fait, non, mais si, monsieur, vous inquiétez pas, monsieur, là, ça va venir. Puis, tu peux attendre 10 minutes comme ça, quoi, sur le bord de la rue.
Je sais plus où je suis rendu.
À Victoria, la plus grande différence avec la Belgique, Bruxelles, d'où je venais, c'est juste la gentillesse des gens. C'était assez surprenant d'entendre les gens remercier le chauffeur du bus quand il descendait. Tous les gens remerciaient le chauffeur du bus. Le chauffeur du bus passait 2 minutes à dire « Ouais, je vous en prie, bien sûr, pas de problème, bonne journée. »
Tu penses que c'est tous les Canadiens ou c'est les gens de Victoria ?
Je pense que c'est tous les Canadiens. C'est dans le manuel du bon Canadien d'être gentil et les gens qui ne sont pas gentils ne sont pas de bons Canadiens. Je pense que c'était pas propre à Victoria, c'est ce qui m'a marqué le plus parce que c'est là-bas que je suis arrivé en premier. Partout au Canada, je trouvais des gens gentils, enfin partout, là où je suis allé au Canada. Autant à Montréal qu'à Victoria au final.
Tu venais de partir sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, Pipan American. Mais j'ai plus.
Et d'autres choses qui t'ont impressionné ?
J'étais un peu marqué par la différence au niveau des relations commerciales dans les entreprises, mais surtout pour ce qui est des médecins, des dentistes, de tout ce qui est rapport à la santé. Autant en France et en Belgique, j'avais l'impression d'être en contact avec quelqu'un qui me connaissait. Quand on a des expériences chez le médecin ou chez le dentiste à Victoria comme à Montréal, j'avais vraiment l'impression d'être un simple client, quelqu'un qui était juste là pour choisir un produit, se le faire fixer, se le faire poser ou se faire réparer quelque chose. Et donc c'était un petit peu surprenant au premier abord.
Est-ce que tu as l'impression que les rapports entre les gens sont plus superficiels ?
Ils ne sont pas superficiels, c'est différent. C'est un autre continent, c'est une autre culture. On est toujours dans la culture occidentale, mais les gens sont tout aussi sympathiques, il faut juste les approcher différemment. C'est un protocole de rencontre qui est différent, mais qui est tout aussi fonctionnel et quelquefois plus facile même maintenant, je trouve, qu'en Europe. Donc j'ai eu tendance à penser que les Canadiens étaient plus difficiles d'accès. Maintenant, j'ai tendance à penser qu'ils fonctionnent juste un petit peu différemment, il faut s'y faire. C'est partie de l'adaptation à la culture.
Quand tu dis différemment, tu penses à quoi ?
Je pense, par exemple, au fait d'être politiquement correct. En France, l'insulte est amicale. Ici, ça m'est arrivé de lever un doigt à une serveuse au Second Cup et elle l'a vraiment mal pris. Ça serait passé plus facilement autre part.
T'as insulté une serveuse ?
J'ai fait un doigt parce que c'est une serveuse qu'on se voyait... Enfin, tu sais, je vais régulièrement chercher un chocolat le dimanche après-midi. Puis elles sont toujours à me dire « Ah, tu ressembles à Jean-Thomas Tobin, c'est un comique ici, à Québec. » Puis du coup, je sais pas, des fois on parlait, puis là, elle commençait à me saouler, toujours me dire « Hey, on va prendre un café pour Jean-Thomas Tobin. » J'ai sorti un doigt, j'avais rien d'autre à répondre. Et puis elle était un peu surprise, elle a dit à sa collègue et tout. Bref.
T'es étonné que les Canadiens n'acceptent pas les doigts d'honneur ?
Tant la relation, c'était pas... Enfin, je sais pas, c'était pas la première fois qu'on se parlait, mais pour moi, c'est quelque chose qui est pas forcément... Je l'ai pas fait avec un...
C'était amical.
C'était un petit doigt amical. Elle a pas forcément bien pris. Au niveau des différences aussi, c'est... Donc le politiquement correct et le fait de toujours se présenter de façon positive. Ici, tu commences à rencontrer les gens, tu dois être dans un genre de vitrine de toi-même. Tu dois te placer dans une vitrine où tu vas parler de toi positivement et être très enthousiaste par ce que tu fais, par ce qui te motive et par ce qui motive les gens avec qui tu parles. Là où en Europe, tu peux simplement lier amitié en bitchant sur les gens qui passent. Ici, ça se fait plus difficilement.
On ne dit pas trop du mal des autres en Canada.
On le fait une fois qu'on connaît les gens, mais on ne critique pas si ouvertement, si rapidement n'importe qui. On ne sait pas qui connaît qui. Le motif pour rester, c'est mon milieu professionnel. Travailler à Hollywood quand on étudie le cinéma, c'est un genre de rêve. Travailler à Montréal quand on veut faire du jeu vidéo, c'est un rêve aussi, la meilleure chose à faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à embaucher des gens avec un peu tous les gens, tous les degrés de qualification.
Laura et Mathieu, de Marseille, racontent leur arrivée et leur intégration professionnelle.
Ça faisait peut-être 2 ans maintenant que ça nous trottait dans la tête de partir, d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. On s'est dit Montréal, pourquoi pas, parce que je maîtrisais l'anglais, mais Mathieu un peu moins, donc on s'est dit que ça pouvait être une destination plus intéressante pour nous, pour avoir une intégration un petit peu plus facilitée au niveau de la langue, puisqu'on parle le français.
Voilà, c'est ça, l'envie de découvrir quelque chose, et puis pas mal de retours de personnes qu'on connaissait et qui avaient déjà eu l'expérience au Canada, et qui nous ont apporté pas mal de retours très positifs. Donc on s'est décidé pour le Canada.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre arrivée ?
Je dirais une certaine facilité des choses. Ça a été la première chose qui nous a frappé, parce qu'on arrivait ici, il fallait quand même faire une régularisation de certains papiers. Et ce qui nous a frappé, c'est la simplicité des choses, c'est-à-dire que ça a été très très facile, ça nous a pas pris plus d'une demi-heure, on allait dans des bureaux d'immigration, c'était hyper rapide. Et puis la sympathie des gens, on a été très très bien accueillis. Premier contact avec notre premier propriétaire en arrivant donc pour la location de l'appartement, ça s'est très très bien passé, donc c'était très agréable.
Non, c'est la même chose. Je pense que tout ce qui va frapper, je pense, les premières personnes à arriver ici, et c'est vrai que les retours sont toujours un petit peu les mêmes. Ce qui frappe, c'est vraiment la facilité et la sympathie des gens, en fait, ça va ensemble. Du coup, ça facilite les choses, l'adaptation.
Ouais.
Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on se sent à l'aise, on se sent ici. Tout est plus simple.
Mais passé la première impression, est-ce que tout est si facile ?
Après un premier contact très sympathique, donc une bonne entrée en matière assez agréable, on se rend compte quand même très, très vite qu'on peut avoir des a priori en arrivant ici en se disant que c'est un petit peu la France en Amérique du Nord, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, effectivement, bon, déjà au niveau de la langue, des expressions, du parler, il y a quand même des choses qui font qu'on peut avoir une difficulté à comprendre, à communiquer avec, avec les personnes d'ici, pour des problèmes de vocabulaire, des différences d'expression, quelque chose qui peut un petit peu nous chambouler au début. Et puis, les premières expériences professionnelles aussi, donc on s'imagine qu'on peut trouver très vite du travail dans sa branche, ce qui n'est pas forcément le cas. On te demande d'avoir déjà une première expérience québécoise qui est très importante pour ensuite trouver du travail dans ta branche. Donc il faut quand même faire preuve de persévérance et il faut s'accrocher quand même pour trouver, dans la recherche d'emploi, pour trouver un emploi qui te correspond. Et puis au niveau du fonctionnement aussi des relations professionnelles, du marché du travail, c'est quand même assez différent.
Ingénieur chinois, Louis a étudié et travaillé en France avant d'arriver à Montréal.
En fait, au tout début, je viens d'ici pour travailler parce qu'à ce moment-là, je pense que j'ai des expériences professionnelles dans une compagnie française. Et puis, je parle français. L'anglais est assez bon. Donc, avec un diplôme français, je pense que je suis génial pour ici, au tout début. Mais après, après quelques mois, là, je me suis trouvé que si tu parles français, c'est normal. Il faut. Et puis, tes expériences non américaines, quelquefois, c'est pas très, très, très pratique. Donc, pour le diplôme, c'est pire. Il faut faire une évaluation comparative pour le diplôme. Mais quelquefois, ils ne reconnaissent pas très, très, très bien. Donc, il faut bien expliquer qu'est-ce qu'il fait. C'est plutôt pour retenter la chance.
Ce qui est quand même assez intéressant, c'est cette contradiction des choses. C'est que même si c'est assez flexible, tu peux passer d'un secteur à l'autre assez facilement. Créer du contact, du lien avec les gens, provoquer des entretiens d'embauche, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail derrière. Il faut peut-être même provoquer des rendez-vous avant d'obtenir un entretien d'embauche. C'est-à-dire juste simplement pour se présenter, laisser un CV, éventuellement prendre un café, discuter de soi. Puis la personne va penser à toi peut-être 3 semaines, 2 mois après, en se disant « Tiens, il y a une offre d'emploi qui va être publiée dans ma boîte. Je peux penser à cette personne-là, on s'est rencontrés. Donc je vais la convoquer en entretien d'embauche. » Donc il y a quand même tout un travail de réseautage à faire au départ, ouais.
Le premier, ça c'est une entrevue téléphonique. Donc juste des questions simples. Et puis après, pendant un mois, un mois, il n'y a rien de nouvelle. Donc je ne sais pas, il faut attendre ou quoi. Et puis après, j'ai reçu un appel quand j'étais au supermarché. Il m'a dit qu'il faut aller pour faire une entrevue face en face. Donc c'est ça, la deuxième fois. Ça, c'est pour rencontrer notre vice-président et puis un chef de notre laboratoire. Et puis après, aussi la même chose, dans 2 mois. Et puis j'ai rien reçu comme nouvelle. Et puis après, c'est ça. Là. Et puis après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, vous pouvez venir pour rencontrer votre boss. Et puis discuter les détails. Donc je suis passé, donc c'est tout. Ouais. Mais pendant les 3 mois, là, c'est fatigant. Et puis j'étais un peu nerveux. Mais comme ça, ouais.
Ouais, concernant la première expérience, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de manières de faire du bénévolat ici à Montréal, et c'est considéré comme une première expérience. C'est quelque chose qui peut être développé dans ton CV. Quand tu fais un entretien ou quoi, tu peux parler de ça, même si c'est pas un travail rémunéré. Il y a une manière de fonctionner.
C'est ça qui est intéressant.
Voilà, on met plus l'accent en définitive sur l'expérience plutôt que sur le diplôme.
Ouais.
Ça c'est vrai en règle générale ici, et donc dans cet ordre d'idées, forcément, donc bénévolat, stage, tu as travaillé, c'est valorisé de la même manière, quoi.
Antoine de Bruxelles vient de décrocher son premier emploi.
On est dans une petite boîte de 5 personnes. L'entreprise, il y a vraiment une ambiance chaleureuse. Tous les midis, on joue au baby-foot. C'est vraiment très relax.
Et au niveau des rapports avec la hiérarchie à ton travail, est-ce que tu as trouvé que c'était différent de ce que tu connaissais en Belgique ?
Ben, oui, beaucoup différent, parce que je crois que d'une part, c'est parce que c'est une petite boîte, donc il y a toujours une plus petite hiérarchie par rapport à ma première expérience professionnelle en Belgique, où c'était une boîte de plus de 2000 personnes. Mais sinon, apparemment, ici, on fait beaucoup moins attention au diplôme. Tout le monde est traité d'égal à égal. Ici, tu prouves que tu as de grandes capacités, eh ben, on va tout de suite te donner des responsabilités et te déléguer beaucoup de travail. Et voilà, ici, on est beaucoup plus évalué sur la performance. Donc, moi, ça me convient très bien. C'est sur le terrain qu'on apprend le plus. Et donc, il ne faut pas faire « Oui, monsieur, voilà le travail que j'ai soumis. J'espère que... » Enfin voilà, il ne faut pas blablater, on va direct to the point. Et voilà, c'est plus une relation agréable. Notre supérieur nous traite tous de la même manière, donc on a plus envie d'après de faire le boulot qu'il nous demande. Parce que donc voilà, on se sent à l'aise au travail. On n'est pas des numéros et on n'est pas... Ouais.
Je dirais que c'est quand même moins cloisonné, c'est-à-dire qu'on peut, on va avoir une familiarité, un effet de familiarité qui peut être agréable dès le départ, mais qui au final n'est pas si familier que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une distance très importante et on se rend compte très vite qu'il y a quand même des limites à pas franchir, même si en apparence ça paraît très très amical, avoir des relations presque d'égal à égal. Très souvent, c'est l'impression que ça donne, mais on se rend compte qu'il y a quand même un grand fossé, des limites à pas dépasser. Ouais. Donc, ce qui peut aussi déstabiliser les employés qui n'ont pas l'habitude de ça, les employés européens. L'ambiance dans laquelle je travaille fait que je vais avoir une certaine retenue par rapport à ça. On est dans un environnement tellement... comment dire ? Où il y a beaucoup de pression au travail, où on te demande une certaine rentabilité, une certaine productivité assez importante. Donc ça crée quand même un environnement où le fait même de poser la question, de prendre une journée ou deux de congé, te fait te sentir quand même assez mal. Il y a quand même une répercussion sur toi-même, donc du coup, tu vas pas poser la question aussi facilement, malgré le fait qu'en apparence, ça peut être très familier, les relations que tu as avec ton employeur, mais au final... Finalement, en profondeur, les choses sont pas forcément les mêmes.
Et au niveau des relations avec l'équipe, comment ça se passe ?
C'est assez différent de ce qu'on peut avoir en Europe, par exemple. Ce sont des relations professionnelles qui restent quand même très très, si je peux me permettre, superficielles, donc très en surface. On va pas forcément créer des relations avec les gens avec qui on travaille. On va rester très professionnel. Maintenant, moi, au vu de ma dernière expérience professionnelle en agence de design, en tant que traductrice et rédactrice, ce que j'ai pu constater, c'est que y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Il n'y a pas une communication très favorable entre l'employeur et l'employé. Ça reste très flou. Il y a beaucoup d'embauches, il y a aussi beaucoup de licenciements, des gens qui partent. On ne sait pas bien pourquoi. On est dans un environnement qui peut être instable par certains moments. Et qui du coup peut déstabiliser. Donc ça peut aussi affecter pas mal le moral au travail, les relations avec tes collègues de travail également. Ça joue énormément.
Vous avez la même impression ?
Oui, c'est ça, c'est la flexibilité en fait. C'est très flexible, alors ça peut sembler intéressant au départ, puisque peut-être que ça peut faciliter l'embauche, mais aussi faciliter le départ si ça convient pas. Ça peut sembler intéressant, mais c'est vrai que du coup, après, il y a une certaine ambiance, une certaine insécurité quand même du travail, et ça a tendance quand même à être plus en faveur de l'employeur. C'est comme ça que je le ressens aussi, qui peut disposer un petit peu comme ça. C'est un modèle un petit peu nord-américain, c'est un petit peu l'idée que j'en avais, et ça se confirme quand même un petit peu, ça ressemble à ça. Ouais.
Il parle avec des mots précis. puis ils prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes, ils passent leur grande journée à table. Ils ont des menus qu'on comprend pas, ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant
alors,
un moyen.
Alors des amis, je dirais pas ça comme ça. On a eu beaucoup de contacts avec des Québécois, notamment dès le départ, parce qu'on s'est investi dans pas mal de missions bénévoles. Donc ça a été très bien pour rencontrer énormément de monde. Mais ce sont pas des gens que l'on a revus forcément par la suite. Ça s'est très bien passé sur le moment. Ce sont des gens très sympathiques. Il y a un échange de suite, c'est très sympa. Mais on va pas forcément garder contact et donc devenir amis vraiment pour le coup, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression en arrivant que le contact se fait très rapidement, parce que même quand on se promène dans la rue, quand on prend le métro, les gens vont être très ouverts, vont échanger et ouvrir le dialogue très rapidement. Et puis au final, vraiment établir un vrai lien un petit peu plus fort avec des Québécois, finalement, je ne sais pas si c'est dû à la culture qui est différente ou quoi. Mais on s'est aperçu que c'était plus difficile que ça. Avec un premier contact, c'est vrai, facile, mais après, il y a une barrière et finalement, un contact plus poussé, c'est plus compliqué.
Est-ce que vous avez l'impression, en fait, que c'est une fausse idée qu'on peut se faire au début, puisqu'il y a beaucoup de proximité, on pense qu'on va devenir rapidement amis avec les gens, alors qu'en fait, c'est pas plus facile qu'en Europe ou ailleurs?
Oui, c'est exactement ça. C'est pas plus compliqué ni plus facile. Je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens vont être très sympas dès le départ, il n'y a aucun souci. Ils vont être très ouverts et vont parler très facilement. Mais ça va prendre du temps de créer des liens plus forts, c'est sûr.
Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens. Les longues promenades en skidou ou encore en traîneau à chien. Ils ont des tasses minuscule.
C'est pas forcément évident pour les Québécois de se retrouver au milieu d'autant de Français, comme c'est déjà pas évident de se retrouver au milieu d'autant d'anglophones. Le fait de voir autant de Français défiler, pour les études, pour le travail, il y a énormément de gens qui sont là en PVT pour un an, au bout de leur année, qui se plaisent pas, et ils repartent. Certains se plaisent et font les démarches pour rester, il y en a beaucoup qui repartent, qui sont venus pour voir autre chose, qui sont venus pour apprendre à parler anglais. Voir autant de gens défiler, ça peut rendre les choses un peu difficiles pour ce qui est de s'attacher justement à des gens qui a priori vont repartir dans un an.
Les Québécois sont très très respectueux envers les autres, envers les relations, et je pense que c'est assez anglophone comme relation, quoi. Mais par contre, ils sont pas très polis des fois. Tu vas arriver dans une soirée avec des Québécois, il va y avoir les filles, elles vont te regarder, elles vont pas forcément dire bonjour ou des choses comme ça, tu vois, elles vont juste te regarder. Puis c'est au bout d'un moment que là, ils vont dire bonjour. Alors que les Français, eux, sont plus polis, mais par contre, ils sont pas du tout respectueux, quoi. C'est très généraliste, je tiens à dire ce que je dis là, c'est d'une manière très générale, bien sûr ça change selon les gens, quoi.
David, de Toulouse, étudiant en cinéma, nous parle des relations amicales et amoureuses.
Je pense que les Québécois sont vraiment beaucoup plus ouvertes que les Françaises en général.
Pour quelles raisons?
Sur des raisons déjà de relations, quoi. Elles sont beaucoup plus entreprenantes que les Françaises, elles attendent moins que l'homme vienne vers elles. Et elles viennent vraiment, véritablement, beaucoup plus vers toi que les Françaises en général. Et j'ai dit en général trois fois depuis le début, mais c'est parce que j'ai l'impression d'être un snob français intellectuel en train de parler, donc je vais... voilà, exactement. Non, les Québécoises, ouais, elles ont un côté beaucoup plus extraverti, en fait, que les Françaises, je trouve. Quand tu vois deux Québécoises parler ensemble, par exemple, je trouve qu'elles sont... moi, je trouve ça vraiment drôle, les Québécoises qui parlent ensemble. Elles sont beaucoup plus ouvertes sur plein de sujets, notamment les sujets sexuels. Elles parlent assez directement sur des sujets sexuels, alors que les Françaises sont un peu plus... je pense qu'entre elles, les Françaises parlent entre elles, vraiment. Mais c'est entre elles, tu vois. C'est pas le genre de sujet qu'elles vont aborder avec des gars, par exemple, quoi. Alors que les Québécoises, elles s'en foutent totalement de ça, quoi. Genre aussi, il y a des questions de respect, tu vois. Tu vas au restaurant avec une Québécoise, elle va ouvertement te dire direct, non, mais ici, moi je paye, toi tu payes, quand on rentrera dans une relation plus... Puis il y a le truc aussi du, on est dans une relation, on se fréquente, puis après là on rentre vraiment dans la relation au bout d'un certain moment. Il y a comme tu sais, quand t'es dans un travail, t'as genre un mois de préavis, de préavisation, et c'est pareil dans la relation ici, quoi. T'as un petit préavis, et au bout d'un moment, là tu te considères comme ton chum. Ton chum, donc ton copain. Ça aussi, c'est très différent. Mais en même temps, c'est très respectueux, tu vois, dans la relation. C'est pas... c'est beaucoup plus respectueux, quoi. Puis elle va pas... Tu sais, les Françaises, des fois, elles disent « Ah, t'es accouché avec elle le premier soir », elle va te dire « Ah, oh, mais je suis pas une fille comme ça, quoi. » La Québécoise, elle s'en fout, mais totalement, quoi. Elle a couché avec toi et... Elle s'en fout. L'homme québécois, ben, c'est un homme qui est quand même multifonction, quoi. Qui va faire la vaisselle, qui va faire le ménage et tout ça. Alors qu'en France, je trouve que même si c'est en train de changer aussi en France, il y a encore un peu de machisme par rapport à ça, quoi. Au Québec, c'est beaucoup plus ouvert. Mais quand tu vois qu'au Québec, au niveau politique, il y a beaucoup plus de femmes politiciennes, quoi. Il y a beaucoup plus de femmes chefs d'entreprise qui dirigent vraiment des grosses entreprises au Québec. Il y en a beaucoup plus qu'en France.
Quand leur séjour tire à sa fin, ils ont compris qu'ils n'ont plus le droit de nous appeler les Canadiens, alors que l'on est québécois.
Au niveau des surprises propres à Montréal, vraiment, bah on a toujours cet aspect au Québec de... Enfin, mon impression en tant qu'étranger, mais je trouve que le Québec est un petit peu sur la défensive par rapport au reste du pays, comme la Belgique pourrait l'être par rapport à la France, comme les francophones en Belgique peuvent l'être par rapport aux néerlandophones, et réciproquement d'ailleurs. Le Québec défend sa langue, des fois c'est une défense constructive, des fois la défense paraît un petit peu futile. C'est la plus grosse différence que j'ai vue par rapport à Victoria. Au Victoria, t'as vraiment l'impression de vivre dans un pays. Ici, t'as l'impression... Tu sens que tu vis dans une province qui est placée au milieu d'un pays qui n'est pas forcément en accord sur tous les points.
Ça, je trouvais super bizarre. Très dur, les noms de grandes marques en français, quoi. Et c'était deux fois plus long, ça n'a aucun sens.
T'as des exemples, hein.
KFC, ça fait poulet frit Kentucky. Je pense que dans le reste de la planète, ça s'appelle KFC. Donc c'est...
Dravin, designer originaire de l'île Maurice.
Je pense pas qu'ils doivent traduire tous les noms comme ça pour être... Je pense que ça devient assez extrémiste quand tu commences à traduire des noms de marques pour mettre en français. Ça.
Le fait d'imposer le français
c'est gênant. Pourquoi ça n'a aucun sens, c'est tout. Tu peux pas obliger les gens à parler français et traduire des noms en français pour que les gens parlent français. À force de forcer les gens à faire des choses, ils vont les détester. Et c'est vrai que les jeunes Québécois, même francophones, ils parlent plus anglais que français, donc... C'est un effet, comment tu dis, retour, effet inverse, toi.
Quand t'es français et que t'arrives à Montréal, t'es surpris par l'orthographe partout. Et la façon de parler, il y a une culture de la langue, une culture presque masturbatoire des fois, de la langue en France, qui fait qu'en arrivant ici, on utilise moins la langue, comment dire, ici la langue est plus utilisée pour faire passer un message, alors qu'en France on fait beaucoup attention à la forme. Du coup, ça fait un genre de surprise et il y a beaucoup de Français qui ont du mal à gérer cette surprise et des utilisations un peu particulières de leur langue. Les Français étant un peu moqueurs, peut-être à la base, c'est pas toujours évident de se retenir. Les Québécois sont parfois un petit peu susceptibles au niveau de leur façon de parler.
Ils sont un peu moqueurs des fois par rapport à nous, mais c'est jamais très méchant, quoi. Faut bien le prendre et puis ça dépend des personnes qui te le disent.
C'est-à-dire ?
Ils imitent aussi notre accent comme nous on peut faire avec eux. Mais c'est aussi, des fois, ils disent qu'on parle pas français, genre par rapport à la façon dont on emploie l'anglais. Mais eux, ils emploient beaucoup plus d'anglicisme que nous. Ou alors, ils font des traductions directes, des choses qu'on fait pas, tu sais, ou alors qu'on va prendre une autre expression comme...
Le week-end.
Ouais, bonne fin de semaine.
La fin de semaine.
Ouais, tu vois.
Nous, on dit shopping, aller magasiner. Et ils se moquent un peu de nous, mais eux, c'est pareil, parce qu'après, ils vont voir la game de hockey, ils vont avoir du fun, des trucs comme
et
ça.
Et puis, ils vont pas faire la fête, ils vont faire un party, tu vois. Donc, du coup, c'est...
Au final,
c'est
est
pareil
un
que
peu
nous,
pareil,
quoi. C'est un peu pareil, c'est aussi ça, quoi. Je pense qu'on est tellement semblables que c'est pour ça qu'on essaie de se prendre un peu le nez.
Est-ce que vous commencez à prendre l'accent ?
Non, mais alors, à jurer et à prendre des expressions, ouais... Puis quand un Québécois, il te dit la première fois que le tabernacle que tu viens de dire, il est vraiment bien fait, là, tu fais « Ah, c'est bon, quoi. » Ça te fait chaud au cœur, quoi. Puis bien savoir comment les placer et tout, ça, c'est dur,
ouais,
quoi.
Je pense que j'ai un peu pris, quand même.
L'accent ?
Ouais, quand même. Des fois, des « là, là » ou des...
Ouais, mais c'est pas vraiment l'accent, ça. C'est plus une expression.
Ça se met pas assez, tu sais. Je sais pas l'accent, mais
ouais, mais
un
avec
petit
moi,
peu,
non.
Quand
t'es avec eux, ouais, peut-être.
Ouais, ouais. Peut-être. Quand je parlais avec les Québécois, ouais, plus.
Ouais, parce que je sais pas, c'est quand même entraînant comme accent. Tu vois
ouais,
ce que je veux dire
fun. Moi j'aime bien.
Ouais, carrément. On va pas leur dire que c'est fun leur accent, ils vont mal le prendre.
Non, mais c'est beau, c'est chanté quoi.
Ouais, il est trop
que nous,
cool
on est
ton
plus
accent.
Monotone, quoi. L'accent français est plus monotone, je trouve.
C'est quoi votre expression préférée en québécois ?
Qui mange la marne et va manger un char de marne. Ouais. Ça c'est cool ça.
Moi c'est la maison. Quand tu...
Ah oui,
la maison. Ouais, c'est genre. quand ils sont là, ils font « Ah, c'est vraiment bon !» Et puis t'as le mec qui est là derrière « Mais un !» C'est dire « Ouais, carrément, quoi !» Puis la façon dont ils le disent, je trouve ça vraiment cool, quoi. « Mais un !» Ça, c'est vraiment mon expression préférée, quoi. Mais
ils tombent en amour sur le coup, avec nos forêts et nos lacs, et ils se mettent à parler comme nous, apprennent à dire « Tabarnak !» Et bien saoulés au caribou, à la Molson et au gros gin, ils s'extasient sur nos ragoûts de pâtes de cochon et nos planètes.
Est-ce qu'il y a un truc de l'Europe qui pourrait vous manquer ici?
Ouais, à part chez moi où j'habite en France, ouais, c'est clair, mais... De l'Europe?
Ouais.
Ouais, mais pas assez pour que je rentre, si c'est ça la fin de la question.
On réalise qu'on leur ressemble, on leur souhaite bon voyage. On est rendu qu'on donne des becs comme si on l'avait toujours fait. Il y a comme un trou dans le Québec quand partent les maudits français.
C'était Micro-Cravate. Merci aux journalistes qui ont participé à cette émission et à vous qui nous écoutez d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. Très bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need 2 words.
Ok.
Micro-cravate.
Micro-cravate.